C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous qui écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris. Vous venez d'entrer dans une heure dédiée aux 10 grands arts de l'humanité, avec un focus de ce qui se fait pour chacun d'entre eux dans la région de Paris. N'y a-t-il rien de plus délicieux qu'une découverte, qu'un apprentissage qui vous donne la sensation d'être différent ensuite, d'avoir grandi ? L'art n'a-t-il pas vocation à changer un visiteur, un spectateur, une lectrice ? Ne tente-t-il pas de nourrir des cœurs et des esprits avec des idées nouvelles ? Je crois en tout cas que c'est la mission qu'il se donne. À nous maintenant de choisir la prochaine découverte qui nous bouleversera, nous intriguera ou nous révoltera, car oui, l'art, c'est aussi une affaire d'émotion. Prenons le pas et explorons les idées nouvelles qui fusent dans notre société actuelle. Ayons le courage de nous confronter au nouveau, à l'inconnu et aux sensations. Voilà ce que vous allez trouver dans C'est dans l'art ce soir. Une vue d'ensemble, des réactions et des émotions. De quoi prendre le temps de savoir ce qu'il se fait avant de se lancer dans une nouvelle découverte. Chères auditrices, chers auditeurs, que vous soyez déjà fidèles à notre nouvelle émission de culture ou tout simplement curieux de savoir ce qu'il se fait, ce qu'il se dit, ce qu'il se crée, vous êtes au bon endroit. Vous écoutez C'est dans l'art, l'émission d'actualité culturelle qui explore ce qui se fait dans le Grand Paris, et c'est sur Radio Campus Paris. Et on démarre 7h maintenant. Au programme de C'est dans l'art ce soir, on rigole de notre condition humaine avec le spectacle de Shirley Soignon, on se fâche avec la nouvelle BD de Myrion Mal, on suit l'histoire de trois amis côté littérature, on parle intimité pour les arts visuels et on se questionne sur la place de la nostalgie à la télé. Des sujets divers et variés mais qui ne font que refléter notre actualité. Je sais pas vous mais moi personnellement j'ai hâte de vous entendre. C'est dans l'art, c'est sur le 93.9 FM en Ile-de-France, sur le canal Campus en DAB+, et partout et tout le temps sur radiocampusparis.org. Amis curieuses, amis curieux, c'est parti pour une heure artistique.
C'est dans l'art, un dimanche sur quatre sur Radio Campus Paris.
Et pour la cause, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table du studio direct de Radio Campus Paris Diane, Saphir, Christophe,
salut,
Garance,
coucou,
Jeanne,
salut.
La nouvelle équipe prête à vous dévoiler leur chronique. À la technique, dans la régie de Radio Campus Paris, il y a Eléa et je suis Léa, de retour pour vous accompagner une fois de plus au fil des chroniques et des réactions. Salut à tous les cinq, merci d'être là ce soir. Est-ce qu'on a hâte des sujets du jour ?
Oui,
ah bah complètement.
On a très hâte.
Qu'est-ce qui vous donne envie là, parmi tout ce qui a été annoncé jusque-là ?
La nostalgie à la télé.
Ah. Ouais, ça a l'air très intéressant.
Ah.
Ouais, c'est vrai.
D'autres réactions ?
Non.
Pas tellement. Rien vous donne envie ?
Bon, moi, hyper
moi, je vous le dis.
Tout, on a envie de tout.
Voilà, c'est surtout ouais, c'est ça qu'il fallait répondre ça. Et que j'attendais comme réponse. Merci Christophe de me la donner. Allez, c'est parti, on se lance dans notre émission de culture.
Sur Radio Campus Paris.
Allez, avant de nous lancer dans les thèmes du jour, faisons un point sur l'actualité générale avec Jeanne. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ?
Ben, c'est parti pour un peu d'architecture avec le pavillon de l'Arsenal qui propose une toute première exposition hors les murs qui aura lieu sous le parvis de la cathédrale Notre-Dame, intitulée « Lieu sacré, bâtir, célébrer, coexister ». C'est une exploration de la diversité du patrimoine architectural sacré dans le Grand Paris et la façon dont ces lieux façonnent nos villes. L'expo ouvre le 27 février et c'est à voir gratuitement jusqu'au 31 mai. Sculpture à présent, c'est officiel depuis peu, une certaine sculpture très largement adulée et photographiée fera son retour dans le ciel parisien cet été. En effet, la vasque olympique et sa flamme électrique s'élèveront à nouveau au-dessus du jardin des Tuileries chaque soir à partir du 23 juin et jusqu'au 14 septembre, et ce tous les ans jusqu'au JO de 2028. Côté art visuel, alors que l'actualité internationale prend une petite odeur de fin du monde, la BNF propose depuis le 4 février l'exposition intitulée Apocalypse, hier et demain. Au programme, une redécouverte de la notion d'apocalypse depuis les représentations médiévales et bibliques et jusqu'aux réinterprétations contemporaines. Et pour se rassurer, on y apprendra par exemple que l'apocalypse, c'est pas la fin des temps, c'est la révélation, le dévoilement d'un nouveau monde. Sur les planches de théâtre en ce moment, Laure Calamy brille au Théâtre Montparnasse dans une adaptation de la bande dessinée Podome de Hubert Ezanzim, qui avait rencontré un grand succès en 2020. Reprise ici dans une mise en scène de Léna Brébant et avec les chansons originales de Ben Mazué, l'histoire de Bianca, jeune italienne de la Renaissance, promise à un fiancé inconnu, qui découvre qu'elle peut se transformer en homme grâce à une mystérieuse peau. La pièce fait beaucoup parler d'elle en ce moment et c'est à voir jusqu'au 31 mai. Parlons art médiatique maintenant avec le palmarès du festival Longueur d'onde, le plus gros festival de radio et du podcast qui se tenait au début du mois à Brest. Je vous encourage donc à aller écouter les lauréats de ce cru 2025. La Fugue et le Canon de Kabiria Chomel remportent le Grand Prix de la création documentaire. Et côté fiction, sont récompensés le projet Orloff de France Culture et l'incontournable La Chute de Lapinville par Arte Radio. Musique, faites votre choix dans les sorties remarquées du mois, il y en a pour tous les goûts. Yoa signe La Favorite, un premier album plébiscité. Voyou reprend Henri Salvador dans un bel album en forme d'hommage. Oxmo Puccino fait son retour avec La Fia Sessions, sans oublier The Weeknd avec Hurry Up Tomorrow. On peut aussi réécouter sans modération la musique de deux artistes disparus tout récemment, l'icône britannique Marianne Faithfull ou le reggae de Naman. Nouvelle page de littérature, tandis que la plupart des grands prix littéraires sont remis à l'automne et récompensent les sorties de la rentrée de septembre, l'autrice et journaliste Delphine Minouy vient d'être nommée lauréate de la première édition du nouveau Grand Prix littéraire, pensé comme une seconde chance pour les livres non primés à l'automne. Son ouvrage récompensé, Bad Gens, est une plongée dans le mouvement Femme, Vie, Liberté, au travers du regard d'une jeune iranienne de 16 ans décidée à s'affranchir et s'est parue chez Seuil. Cette semaine dans les salles obscures, des sorties très attendues de ce début d'année, à commencer par The Brutalist de Brady Corbett avec Adrienne Brody, l'histoire d'un architecte juif hongrois rescapé de la Shoah et immigré aux États-Unis. Un peu plus de légèreté, quoique, avec le retour de Bridget Jones pour un ultime opus, Bridget de retour sur le marché du célibat après la mort de son grand amour Mark Darcy. Et enfin, dans un genre totalement différent, la sortie au cinéma de 5 nouveaux épisodes de la série documentaire culte Striptease, dans un long format. Si vous ne la connaissez pas, courez-y, ça vaut le détour. Enfin, terminons par les nouvelles de la bande dessinée. Il n'est pas trop tard pour évoquer le palmarès de l'immanquable Festival d'Angoulême, qui a remis son Fauve d'or 2025 à Luce pour Deux filles nues, un roman graphique à travers un siècle d'histoire européenne autour de la censure artistique. Mais ce qui attire encore davantage mon attention, c'est le prix Révélation attribué à Ballade de Camille Pott, une histoire de chevalier grenouille et de princesse grenouille, et ça, ça a l'air hilarant. Voilà de quoi remplir à votre goût notre planning culturel de février.
Je crois qu'on est toutes et tous prêtes et prêts pour lancer le thème du jour. Merci Jeanne.
Merci à toi.
Architecture,
sculpture,
musique,
c'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Et pour commencer les chroniques du jour, parlons art de la scène avec Diane. Tu nous parles d'une artiste drôle qui revient sur ce qu'est être humain.
Oui, et avant de commencer ma chronique, est-ce que vous connaissez la définition de être humain ?
Non.
Bon, est-ce qu'il y en a une déjà ?
Il y en a une. Bah, il y en a une parce que... Eh bien, la définition de être humain, c'est un être vivant, membre de l'espèce humaine. Il se différencie des autres espèces par son mode de déplacement bipède, son langage articulé, ses mains préhensibles et son intelligence développée. Et être humain, c'est le titre du dernier stand-up de Charlie Soignon qu'elle a joué il y a 2 ans avant d'annoncer prendre sa retraite. Prendre sa retraite pour se reposer, arrêter le stand-up et enfin s'écouter, se retirer à la campagne pour faire pousser des tomates. Alors oui, dit comme ça, on dirait un Parisien de 40 ans qui a travaillé dans une start-up toute sa vie, qui porte des chaussures bateau et qui veut tout plaquer pour élever des chèvres dans l'Arzac, parce que tu sais, le rapport à la nature, c'est hyper important. Mais c'est pas une blague, et c'est surtout loin d'être ce cliché de la vie parisienne surdébordée que nous offre Shirley dans son spectacle.
Mais elle a commencé il y a longtemps, Shirley ?
Ouais, elle a commencé en 2006. Elle commence le stand-up via le Jamel Comedy Club. Elle joue un spectacle intitulé Sketch Up. Bon, on repassera sur le titre de ses spectacles. Elle commence donc en 2006 à un moment où les sujets d'orientation sexuelle, de genre et de racisme sont loin d'être au centre des bateaux de stand-up. Enfin... ils le sont parfois, mais avec des blagues faites par des personnes non concernées qui sont souvent beaucoup plus oppressives que dénonciatrices. Mais Shirley, à ce moment-là, elle commence à parler de sa vie, de son quotidien. Celle d'une personne noire, lesbienne, et donc loin des codes de... je sais pas si vous avez remarqué, mais le métro, ça pue un peu, non ? Elle parle de son identité, parce que c'est ça le stand-up, parler de sa vie, de son quotidien et de qui on est.
Et alors, elle arrive à se faire une place ?
Bah ouais, miracle. Elle arrive malgré les contradictions, malgré les barrières, malgré les... tu es sûr que ça va marcher ? Parler de ta copine sur scène, c'est pas une très bonne idée. Hein. Elle arrive à percer dans le stand-up, à se faire une place. Elle passe à la télé, dans Demande qu'à en rire, au Jamel Comedy Club, à Montreux. Elle fait des vidéos sur YouTube. Elle montre son propre comedy club. Elle lance sa boîte de production. Elle fait les plus grands plateaux, les plus grandes scènes. Elle écrit pour des séries. Elle passe sur Netflix. Je sais pas si vous vous rendez compte. Netflix, quoi !
Oui, donc en fait, elle a tout le monde à ses pieds.
Bah ouais. Mais le problème, c'est que... à quoi bon continuer quand dans ta vie de tous les jours, rien ne va ? Tu sens le poids de tes émotions et de tes peurs chaque jour sur ton dos. Tu as peur, tu doutes trop, tu sens que tu tires sur la corde de ta santé mentale et tu te rends compte que le milieu dans lequel tu es, il n'est fait que de toujours plus. Que faire quand l'extérieur n'est plus le reflet de ton intérieur ? Shirley, Avant de reprendre une pause, elle a tout fait. Elle a tout enchaîné. Elle n'a pas arrêté. Elle était sur tous les fronts. Elle a oublié une part essentielle de notre capacité d'être humain, notre part de vulnérabilité.
Mais alors du coup, il parle de quoi ce ciné-rencontre ?
Eh bien, dans ce ciné-rencontre qu'elle nous propose, elle nous invite à libérer notre rapport à la vulnérabilité. En allant plus loin qu'un simple spectacle projeté dans une salle de cinéma, elle prend le temps d'échanger et de se questionner autour de nos failles, accepter nos contradictions et notre impermanence, nos moments de joie comme nos moments de tristesse, de peur comme de grand bonheur, pour embrasser ce qui fait de nous un réel être humain.
C'est beau ce que tu dis, Diane.
Ouais, je sais. Je suis un peu poétesse à mes heures perdues. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille d'y aller. Vous pouvez retrouver toutes les dates des ciné-rencontres qu'elle propose via son site internet, charliesoignon.com. Et en attendant de découvrir son spectacle et d'en parler avec elle, vous pouvez écouter son podcast Soignons-nous, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Un podcast qui se veut comme un espace d'échange, d'émotion et de créativité avec sa communauté via des vocaux de leur part. Et pour conclure cette chronique, moi j'aimerais bien vous questionner sur la définition pour vous de être humain. Ça veut dire quoi pour vous être humain ?
Et ben voilà, je crois qu'on peut lancer les réactions. En tout cas, c'est un spectacle qui parle de vulnérabilité, de raté et de soi. Merci Diane, à vos retours pour la question qui vient d'être posée.
Bah, avant de répondre à la question, je trouve que c'est marrant parce que ça fait totalement écho à ce qu'on disait dans l'émission dernière quand on parlait du spectacle de Camille Chamou, Ça va, ça va, et comment la vulnérabilité et la santé mentale devient matériel de quelque chose de plus léger et d'humoristique. Et en fait, ça nous relie tous ces questions-là. Donc c'est marrant que tu en parles, ça a l'air super intéressant.
Donc effectivement, être humain, c'est, je crois, un sujet qui est souvent questionné du côté humoristique. Ouais. Vous avez vu comme ça des spectacles un peu qui traitent des mêmes sujets d'un point de vue humoristique ? Ça vous fait écho à des choses que vous avez vues ?
Alors là, pas du tout. Mais pas du tout, du tout. Non, mais ce qui m'étonne, c'est que là, vous dites, vous citez deux cas d'exemples de comiques qui sont au bout du rouleau et qui sont dans l'essai de... On les imagine joyeux et en fait, ils font rire tout le monde. Évidemment, ça rend peut-être pas tellement heureux de faire rire les autres. Moi, c'est ça que ça m'évoque. Alors, est-ce qu'être humain, c'est rire ou faire rire ? Peut-être les deux, je sais pas.
Bah, c'est marrant parce que le spectacle, elle a joué il y a 2 ans et elle a dit à la fin, en fait, je vais juste arrêter parce que ce dont je parle dans le spectacle, c'est juste, je vais devoir m'écouter et genre faire une pause parce que je vais péter un câble en fait si je continue à faire rire et à parler de mes traumas et en fait, juste moi, je vais pas bien et je suis en train de faire une dépression, quoi.
Garance.
Oui, je voulais dire que je pense que faire rire, c'est... on part d'abord de nos traumas, on essaye de les surpasser. Et donc, c'est plutôt une manière d'essayer d'aller... de passer outre. Et visiblement, c'est très fatigant aussi de se confronter en permanence au public et justement d'être vulnérable. Parce que je pense que c'est ça aussi, sur scène, c'est s'exposer.
Ouais, ça rappelle que c'est violent de monter sur une scène.
Ouais.
Peut-être.
Et pourtant, c'est le parti que prennent beaucoup d'humoristes, d'aller voir au plus profond d'eux-mêmes, d'aller traiter les sujets les plus délicats et ensuite de les mettre en scène. C'est une belle manière finalement aussi de parler de l'entièreté de ce qu'est être humain. Ça t'évoque quoi, Saphir ?
Mais la scène peut être une thérapie aussi parfois,
ouais.
À ce niveau-là.
Pour qui ?
Pour les humoristes, mais aussi pour les personnes qui regardent.
Je pense.
À ce niveau-là. Et au fond, est-ce que le sujet, c'est aussi ne pas avoir de la compassion, compassion pour soi-même et de la compassion pour les autres ? Parce qu'on est quand même dans une société assez violente, assez individualiste, on va dire les choses franchement. Et il y a aussi tout ce sujet-là. Les gens n'ont pas forcément de compassion pour les autres et encore moins pour eux-mêmes. Peut-être un des sujets.
Et peut-être que les humoristes... Pardon, on est en train de faire du méliès, on n'arrête pas de parler les garçons. Donc je me tais. Non, je me disais que peut-être que les humoristes suscitaient peu de compassion. Parce que justement, comme ils font rire, on pense qu'ils vont toujours bien.
Ouais. Je sais pas si c'est ce qu'ils cherchent à faire après.
Ah non, je sais pas eux, mais c'est peut-être ce qu'ils produisent involontairement.
Oui. Moi, je trouve quand même que c'est un art qui est très fort parce qu'on rigole et puis le lendemain, on y repense et on y repense sans rigoler. Ouais. Et c'est là où, en fait, il y a un vrai travail artistique et de réflexion qui est fait. Et je pense que c'est là aussi où on voit la qualité de l'œuvre ou du moins du spectacle de ces artistes qui ont été délivrés, quoi. Ouais. Jeanne, un dernier mot ?
Non, j'étais en train de réfléchir au fait que ça me fait penser à l'humoriste Constance qui fait qui a été notamment chroniqueuse à France Inter pendant longtemps et qui à un moment a un peu disparu de la scène humoristique et qui est revenue après en disant bah voilà, en fait, j'ai fait une grosse dépression, on dit pas trop comique, peut-être. Je suis humoriste, c'est mon métier de faire rire les gens, mais je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une pause et de me soigner et maintenant elle revient, elle remonte sur scène et enfin c'est intéressant de voir comme ça que quelqu'un de très vulnérable peut voilà.
Après, c'est aussi... cette réflexion. Non, mais c'est vrai. Si, bah, moi, je la termine.
Si tu veux.
Non, mais c'est qu'on se rend
compte. C'est pour ça qu'il y a les chefs.
On se rend compte, en fait, que c'est une double personnalité. Voilà. Il va y avoir la personnalité médiatique qui n'a pas de faille. Et puis ensuite, l'humain qu'il y a derrière. Et qui, quand il rentre, il ou elle rentre chez soi le soir, se reprend cette vague d'émotions qu'il ou elle vient de produire d'un point de vue médiatique. Garance, je te vois bouger la tête.
Oui, et je pense que c'est pour ça que le podcast s'y prête bien. Ouais. Parce qu'il y a cette protection du micro qui permet de ne pas s'exposer autant. Mmh.
La radio, le podcast, ouais. C'est vrai que c'est le dernier bienfait, je crois, qu'on peut trouver dans les arts médiatiques
d'aujourd'hui. Pardon, peut-être savoir où a lieu ce spectacle ? Je crois que j'ai pas entendu.
Du coup, c'est des ciné-rencontres, donc c'est dans des salles de cinéma. Il y en a partout en France. Le premier, c'était à la commune de Saint-Ouen, mais elle en fait partout en France. Et petit truc que je peux rajouter, elle a un partenaire sur ces ciné-rencontres qui sont Rodia. Donc à chaque ciné-rencontre, on a en cadeau un carnet et un crayon pour noter en plus pendant la rencontre les idées qu'on a, etc. Donc c'est super.
Et ben à vos carnets, prenez note. Être humain, c'est le spectacle de l'humoriste sur les soignons. On vous laisse y aller si la chronique de Diane vous a convaincu. Merci à toi.
Merci.
Art visuel, art médiatique, art de la scène. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Et pour continuer notre heure culturelle, parlons littérature avec Christophe. Christophe, je crois que tu nous parles d'un trio amical faisant face à une épreuve intrigante dans le roman que tu nous présentes.
Et oui, je vous emmène dans le centre-ville de Rouen, cette cité de 16 331 habitants en 2022, 35e ville française par sa population. Merci Wikipédia. C'est une ville qui est restée célèbre d'abord, et ce n'est peut-être pas un hasard par rapport à ce roman, parce que c'est là que fut dressé un bûcher pour Jeanne d'Arc le 30 mai 1431, merci toujours Wikipédia. Donc dans le roman dont je vais vous parler maintenant, on est presque 600 ans plus tard, deux jeunes femmes, Anne et Stacy, se retrouvent pour ouvrir une boucherie, mais une boucherie d'un genre nouveau, avec des fleurs, des guirlandes, c'est très joli. Elles se sont connues dans un CFA, elles sont devenues amies avant de s'éloigner. Anne, c'est l'héritière de l'histoire, elle a hérité de la boucherie de son père, il est en plein centre-ville, c'est une boucherie qui sert toute la bourgeoisie locale, alors que Stacy, c'est plutôt la bad girl, la fille qui a fugué, grandit dans des foyers. Outre ça, les filles, elles ont deux points communs, un point commun, elles n'ont plus de parents, et voilà.
Mais alors, tu nous parles d'un livre qui raconte l'histoire d'une boucherie, c'est quoi ? C'est le défilé des clients ? C'est Top Chef chez les viandards ?
Mais non, même si la boucherie est évidemment importante dans cette histoire. D'abord, il faut préciser qu'une troisième fille va les rejoindre, donc tu avais raison, c'est un trio, pas un duo. Elle s'appelle Michel, alors elle est peule, elle a fui son pays et elle a besoin à tout prix d'un travail pour avoir des papiers. Ces trois filles bouchères vont rencontrer un succès grandissant dans la capitale normande, et ça va éveiller les jalousies parce qu'elles ne sont pas conformes. Le roman parle évidemment des stéréotypes de genre. Bouchère, c'est pas un métier pour les filles, pensent certains voisins de la bonne société. C'est d'autant plus louche qu'il y a une fille racisée dans la bande. Alors voilà, elles sont douées, elles travaillent bien, mais elles ne sont pas vraiment dans les clous. L'autrice qui s'appelle Sophie Demange, j'écris d'ailleurs et je trouve que ça résume très bien. Dans ce quartier conformiste, elles étaient l'incarnation de désirs confus et inavouables. Rajoutez à cela que des hommes qui tournaient autour de la boucherie disparaissent peu à peu et la machine à rumeurs se met en route.
Est-ce que c'est un roman féministe ?
Alors je dirais oui, mais pas seulement, parce que d'abord en tant qu'homme blanc de plus de 50 ans, et oui, j'ai trouvé que c'était une très intéressante mise en fiction du concept de sororité. Ces trois filles, on a vraiment envie d'être dans leur bande, mais moi j'ai envie d'être dans leur bande, même si rien qu'à l'idée de désosser une épaule d'agneau, voire de couper un morceau de viande, je ne suis pas loin du malaise vagal. Elles, pas du tout, elles y vont, et sans trop en dire, elles savent manier le couteau. Et puis, c'est aussi un roman queer, dans la boucherie, on aime différemment. Enfin, dans cette boucherie-là, pas dans la boucherie en général. Et c'est selon moi une des plus grandes réussites du roman que d'infuser des personnages qu'on a plutôt l'habitude de croiser dans des textes ou dans des films qui se déroulent, aller à Paris, entre Jussieu et Normale Sup avec un crochet par le nord du 11e arrondissement. C'est un vrai roman de la diversité française, parce que Sophie Demange, l'autrice, ajoute autour des personnages, autour des trois filles, des personnages secondaires qui enrichissent encore le panorama.
Est-ce que c'est quand même un roman à offrir à des amis véganes ?
Alors, je ne me prononcerai pas sur ce point. Il y a des descriptions qui faut être bien accroché. Mais bon, vous l'avez compris, la boucherie est un alibi pour parler de notre époque, de notre société. Un point important que je n'ai pas encore évoqué, c'est donc l'autrice Sophie Demange. Sur le dos de la couverture du livre, on découvre qu'elle est directrice au sein d'un établissement médico-social. Et là, d'un coup, on réalise que derrière le côté farcesque du livre, le côté récit d'engeance, il y a sûrement une vraie connaissance du monde social et en particulier des violences faites aux femmes et aux enfants. Et quand on a ça en tête, ça donne un poids particulier aux biographies de plusieurs personnages qu'on croise dans le livre, comme Stacy ou Michel, ou encore la jeune Adèle, une collégienne qui se suicide
en raison officiellement d'un harcèlement scolaire. Les Bouchères, c'est donc trois livres en un. C'est une farce policière qu'on ne lâche pas sur trois filles qui montent une boucherie. C'est un roman sur les stéréotypes qui montrent combien on pourrait vivre autrement. Et c'est aussi et surtout peut-être un témoignage sur le côté sombre, très sombre de la société, tout en restant divertissant. C'est cet équilibre-là qui, pour un premier roman, fait pour moi un livre très réussi.
Un roman mettant en scène l'importance de l'amitié, et c'est le tout premier roman de Sophie Demange. Merci Christophe.
Je vous en prie.
Allez, passons aux réactions. Est-ce que pour vous l'amitié, c'est aussi fort que comme c'est décrit dans ce livre-là?
Ou est-ce que vous aimeriez faire partie de cette bande de filles?
Ou alors, pourquoi pas? Christophe, tu t'es déjà prononcé. Diane,
moi,
ça
oui,
dirait.
C'est clair.
Moi, ouais. Après, moi, j'ai pas des amis avec qui je parle tous les jours et tout. Genre, j'ai une amitié très fusionnelle. Et du coup, quand on a besoin de soutien, on s'appelle et ça se passe bien et ça s'apaise. Mais moi, j'aime pas trop les relations genre hyper fusionnelles et tout. Ça m'oppresse un peu. J'ai besoin un peu de liberté.
Alors, bon, ça vous est déjà arrivé par amitié, vous, de couvrir des amis pour des conneries qu'ils ont fait et en fait, vous étiez... On va peut-être pas aller jusqu'au meurtre. Revenons dans notre vie réelle à nous, mais je sais pas, non. Saphir...
Pas de ma connaissance. Pas du tout à ma connaissance. Là, j'essaie de réfléchir, mais...
Donc
mais...
t'as des amis sages, c'est
pas
bien.
Pas du tout. Moi, c'est ce que je suis en train de me dire, en fait.
C'est pas de ça, le killer.
Mais par contre, moi, j'aimerais rebondir sur l'enjeu de décentrer un peu les récits, notamment en littérature, et de montrer que, justement, il n'y a pas que des histoires queer dans le milieu bourgeois parisien.
Ouais, moi, ça, j'ai trouvé
ça super.
Et ça,
je trouve ça vraiment... C'est un enjeu important, je pense, que dans toute fiction.
Ouais, je suis tout à fait d'accord, et j'ai trouvé ça très original, moi, pour le coup. C'est tout. Je sais pas si. Non, mais c'est vrai, parce que sinon on tombe vite dans le cliché, ouais. Et on n'imagine pas du tout cette histoire-là dans le monde de la boucherie. Alors,
c'est vrai.
Bon, y a aussi des personnages qui sont journalistes. Hein. Il y a un mélange, il y a toute une histoire. On est obligé d'aller vite, mais les personnages sont super bien construits, ils sont crédibles. Hein. Et on imagine bien que dans la petite ville, enfin la petite ville, c'est un peu méprisant, pardon, dans la ville de région, dans le centre-ville, très bourgeois, très classique, où on est plutôt en bleu marine. Si, je ne sais pas si encore aujourd'hui on s'habille en bleu marine quand on est bourgeois, mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Et ben elles choquent, quoi, elles surprennent. Ah ben moi.
Pour les auditeurs,
je voudrais pas
précise...
dire, mais bon, bataille. Hein.
moi aussi. Hein.
Je précise, Christophe porte actuellement un pull bleu marine. Donc,
Mais ça vous va bien.
Jeanne, une réaction?
Non, mais je suis totalement d'accord avec cette importance de montrer d'autres régions. Et nous, on a un petit peu un tropisme Grand Paris, parce qu'on est sur Radio Campus Paris, et que la plupart de ce dont on parle se passe ici. Mais à travers la fiction, comme ça, on peut aller chercher d'autres territoires et montrer
vrai.
D'autres... réalité, ça me fait penser, alors dans un genre totalement différent, au film Vingt Dieux qui a eu un gros succès il y a quelques mois et qui a soulevé pas mal de discussions autour de la représentativité de territoires qu'on connaît assez peu quand on habite Paris 11. Et je trouve ça hyper important et très précieux dans nos paysages culturels. Mmh.
Ouais, parce qu'en plus c'est pas un roman réaliste, c'est aussi c'est de la vraie, enfin j'espère. Enfin pour certains aspects du livre, j'espère. C'est une vraie fiction, quoi. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, Garance. C'est important que la fiction elle investisse aussi ces terrains-là et que dès qu'on pense queer, on soit pas forcément à Paris dans deux arrondissements.
Exactement, c'est sûr. Saphir, une réaction?
Mais du coup j'ai une question, Christophe. On s'attache aux personnages, j'imagine.
Oui, j'ai envie d'être dans leur bande.
Ouais.
Ah oui, il l'a dit déjà plusieurs fois. Nous venons de parler du roman Les Bouchères de Sophie Demange. Merci encore à toi, Christophe.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté cette première partie de C'est dans l'art. Pour les curieux et curieux, nous continuons de découvrir de nouvelles œuvres et personnalités. Place aux arts visuels, aux arts médiatiques et à la BD. À tout de suite.